Le journal des idées, Jacques Munier.
France Culture, 6h41. Jacques, à l'invitation de la présidente de la commission des lois de l'Assemblée, nos députés ont visité les prisons.
Oui, Dani, une quarantaine d'entre eux se sont rendus dans un établissement pénitentiaire de leur circonscription en vue du projet de loi de programmation dont le vote est prévu au printemps, qui doit notamment décider du plan de construction de nouvelles places de prison. Une manière aussi de préparer l'audition prochaine de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, dont l'hebdomadaire Le 1 publie aujourd'hui un long entretien. À la tête d'une équipe d'une cinquantaine de personnes, dont 40 contrôleurs, anciens avocats, magistrats ou directeurs de prison, Adeline Hazan a pour mission de déterminer si des atteintes aux droits fondamentaux sont commises afin d'y mettre un terme. Il s'agit notamment du droit à la vie et à l'intégrité physique, du maintien des droits familiaux, à la santé, du droit à des activités ou au culte. Pour les mineurs, précise-t-elle, nous portons une attention particulière au droit à l'éducation. Notre rôle est de donner à voir l'invisible, faire en sorte que l'état de droit ne s'arrête pas aux portes des lieux de privation de liberté, ce qui est souvent le cas. Dernière visite en date, la maison d'arrêt de Fresnes, dans un état de vétusté et d'hygiène terrifiant. Des rats couraient partout, les détenus étaient couverts de piqûres de punaises. Ce sont des conditions de vie indignes pour les détenus et des conditions de travail épouvantables pour les surveillants, qui occasionnent beaucoup de violence et parfois même de la corruption. En l'occurrence, le rapport établi a permis le déblocage d'un budget proche d'un million d'euros pour financer notamment la dératisation. Pour l'hebdomadaire, Manon Pollic a mené l'enquête au Baumettes, autrefois de sinistre réputation avant d'être rénovée. En 2012, le contrôleur général des lieux de privation de liberté de l'époque, Jean-Marie Delarue, avait passé 12 jours sur place avec son équipe et dénoncé, je cite, une situation épouvantable, cafards dans les réfrigérateurs, installations électriques non sécurisées, absence de cabines de douche et d'eau chaude, cours de promenade inondées, jonchées de déchets et de rats crevés. Les détenus s'entassent à trois dans des cellules de 9 mètres carrés. Mais aujourd'hui, avec sa nouvelle structure agrandie, l'Observatoire international des prisons, l'OIP, craint que la région ne désengorge certains établissements au détriment de la prison des Baumettes. Or, une prison surpeuplée, aussi bien conçue soit-elle, est une prison qui fonctionne au ralenti. C'est d'ailleurs la leçon que retient Éric Orsenna, qui a rendu de nombreuses visites en prison, notamment à Fleury-Mérogis, dans le cadre de sa mission pour la lecture. Il évoque le terme de maison d'arrêt, qui signifie aussi que la vie s'est arrêtée. C'est l'inverse de la réinsertion, estime-t-il. Quand la vie s'arrête, quand on vit uniquement avec des gens arrêtés, on va forcément vers le pire.
Par ailleurs, Jacques, l'écrivain insiste sur l'importance de la lecture dans ces conditions.
Oui, une importance insuffisamment prise en compte, car la lecture n'est pas considérée comme une activité, mais comme un loisir en prison. Et l'accès à la bibliothèque est loin d'être une priorité. Le dernier numéro de Passe-Muraille, la revue du Génépi, publie un dossier sur prison et fiction, comment la fiction, notamment au cinéma, rend compte de la condition carcérale en répercutant souvent des stéréotypes qui contribuent à l'étiquetage social et ne facilite pas forcément la réinsertion. Mais aussi, comment les détenus peuvent utiliser la fiction comme une ressource, non seulement par la lecture, mais par l'écriture, à travers le témoignage, l'autofiction ou la poésie rappeuse du rap. La revue ouvre d'ailleurs ses pages à ces différents genres de textes dans sa rubrique « Voix captive ». Qui pourrait dire la durée du présent, écrit Emmanuel, vivre l'instant. Quand j'étais actif, je regrettais de ne pas savoir le faire suffisamment. Je concevais cela comme un danger, un risque de rater l'instant d'après. J'avais toujours une longueur d'avance. Parole de détenu, donc.
Toutes les activités sont bénéfiques au temps carcéral ainsi qu'à la réinsertion, Jacques.
Oui, mais il faut trop souvent attendre des mois avant d'y avoir accès. Et si la réinsertion est bien l'un des objectifs affiché de l'incarcération, la question conduit inévitablement à celle du sens de la peine. Aujourd'hui, en maison d'arrêt, le taux de récidive dans les 5 ans est de 63%, alors qu'il est bien inférieur dans le cas des peines alternatives. Pour l'OIP, l'Observatoire international des prisons, il faut repenser le sens de la peine et imaginer des alternatives à la prison. On incarcère des personnes pour des infractions routières quand on pourrait envisager des travaux d'intérêt général. Dans le dernier numéro de la revue de l'OIP, Dedans Dehors, Didier Fassin, l'auteur de Punir, une passion contemporaine, dénonce l'obsession de la punition et il rappelle que pendant longtemps, c'est plutôt la notion de réparation qui s'imposait, compenser un dommage plutôt que sanctionner un coupable.
Et je me permets de citer Victor Hugo qui disait « C'est lui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison, mon cher Jacques ouais. ». Merci beaucoup, bonne journée à vous. Vous pouvez bien évidemment podcaster le journal des idées de Jacques Meunier sur les sites franceculture.fr ou tout simplement en vous abonnant au journal des idées.